foi et turbulence.
Bonjour et salutations à tous et à toutes, ici François Gloutenay, vous êtes à l'écoute de l'émission Foi et Turbulence, nous sommes le mercredi 18 décembre 2019. Alors bienvenue à cette table ronde qui, deux fois par mois, accueille des chroniqueurs, des observatrices, des journalistes qui ont le mandat d'analyser l'actualité la plus récente. Nos invités nous aident à comprendre les enjeux derrière les faits et les événements qui nous sont rapportés quotidiennement. On demande à ces spécialistes de chercher et surtout de trouver un peu de sens et d'humanité au milieu de toutes les informations qui nous submergent parfois. Ce qui intéresse nos analystes, c'est toute l'actualité, qu'elle soit politique, sociale ou religieuse, tant nationale qu'internationale. Alors, cette semaine, trois commentatrices et commentateurs viennent discuter et débattre de leur point de vue sur les événements des derniers jours et des dernières semaines. Je vous les présente. Mireille Dastou, doctorante en bioéthique, éthique et théologie à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval. Bonjour, Mireille.
Bonjour.
Participe à cette table ronde Suzanne Loisel, religieuse auxiliatrice, ex-directrice générale de l'entraide missionnaire et militante du collectif Échec à la guerre. Bonjour, Suzanne.
Bonjour, François.
Enfin, Foi et Turbulence accueille aussi cette semaine Louis Rousseau, professeur émérite au département de sciences des religions de l'UQAM. Bonjour Louis.
Bonjour François.
Alors cette semaine, il sera question de la démission d'Andrew Scheer, de la destitution de Donald Trump, des faits saillants de l'année 2019. Mais tout d'abord, discutons de la COP25, une occasion ratée. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que COP25, ben c'est la 25e conférence des Nations Unies sur le climat. On appelle ça la COP25. Elle s'est achevée à Madrid dimanche dernier. Durant deux semaines, des représentants de 195 pays ont tenté de donner un nouveau souffle à l'accord de Paris. Vous vous en souvenez, c'est en 2015, lors de la COP21, donc la 21e conférence internationale, il y a eu la signature de l'accord de Paris. Cet accord, adopté par les 195 pays présents, entendaient limiter le réchauffement mondial à 2 degrés Celsius d'ici 2100. Malheureusement, l'événement de cette année n'a pas connu les bonnes réponses. La communauté internationale a perdu une occasion importante de faire preuve d'une ambition plus grande en matière d'atténuation, d'adaptation et de financement face à la crise climatique. Qui a dit ça? C'est Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, dans un communiqué émis tout de suite après la fin de la conférence. Je suis plus déterminé que jamais à travailler pour que 2020 soit l'année où tous les pays s'engageront à faire ce que la science juge nécessaire pour atteindre la neutralité carbone en 2050 et une augmentation de la température de 1,5 degré maximum. C'est l'engagement qu'il a pris, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, dans un communiqué émis tout de suite après la COP25. Suzanne Loisel, on s'y attendait peut-être un peu, mais en même temps, on avait beaucoup d'attentes par rapport à cet événement-là, et particulièrement cette année, avec toutes ces marches pour le climat. On avait l'impression que les gouvernements avaient entendu.
Effectivement, cette année, les attentes étaient hautes parce que la mobilisation aussi avait été haute et le processus de conscientisation des populations aussi. Oui, on se réfère aux mobilisations citoyennes et sans précédent et on se rappelle celle de Montréal, mais ça a été aussi le cas de tant de mobilisations à travers le monde. Mais il ne faudrait pas oublier aussi qu'il y a eu des rapports de scientifiques importants au cours de l'année. Et il y a eu le rapport du programme de l'ONU pour l'environnement. Et les conclusions sont d'une évidence extraordinaire. Tout le monde dit qu'on est dans un moment, point de non-retour, tellement les enjeux climatiques sont importants, sont majeurs et touchent... d'écosystèmes touchent la vie des populations, etc. Vous avez cité d'entrée de jeu ce que M. Gutiérrez disait dans son communiqué final de la COP25, mais j'aimerais survenir à son communiqué au moment de l'ouverture de la COP25.
Il était plus optimiste, en tout cas.
Bien, il était optimiste, mais il était aussi quand même assez clair en disant, et c'était comme une commande donnée à la COP, la guerre contre la planète doit cesser. On n'a plus de temps à perdre et je pense que La société civile nous l'a rappelé toute l'année. On était en droit de s'attendre que les représentants à la COP25 prennent des décisions importantes par rapport aux subventions de l'exploitation des énergies fossiles, par rapport à la construction des centrales de charbon, par la mise en place des règles qui vont gérer les nouveaux marchés carbone internationaux. Ça a taponné pendant 15 jours. Je dirais qu'il n'y a personne qui s'est levé de façon claire pour dire on prend des décisions qui touchent l'avenir de la planète, qui touchent l'avenir des écosystèmes, qui touchent l'avenir des populations. Et on a aussi senti le décalage entre les pays du Nord puis les pays du Sud. Les pays du Sud qui disent au Nord, payez pour les dégâts que vous avez faits dans le Sud. Dans le fond, on est dans un contexte où on récolte les fruits d'une exploitation à outrance dans un système néolibéral qui détruit la planète pour quoi? Pour le profit à tout prix et au prix de la planète, au prix de la vie de la planète.
Alors, si je comprends bien, COP25, ça a été une occasion ratée, en tout cas, y compris pour le gouvernement canadien, là, qui ne s'est pas fait beaucoup entendre dans cette histoire-là, Louis Rousseau.
Oui. En fait, on est pris dans une équation qui est partout pareille, en tout cas dans les pays du Nord, les pays très développés, d'une manière néo-capitaliste. Entre, d'une part, oui, il faudrait bien qu'on fasse quelque chose, mais sans que ça diminue en quoi que ce soit, l'évolution, la croissance, etc., entendant par là, c'est strictement la croissance économique. Alors, c'est une équation qui ne marche pas. Au Canada, nous en avons la preuve depuis le premier mandat du gouvernement Trudeau, et nous sommes devant la possibilité qu'il en soit ainsi encore au cours du second mandat. Moi, la question que je me pose, c'est jusqu'où va aller la mobilisation populaire? Elle est plus facile dans les pays de tradition démocratique, certainement. C'est pas la population en Chine, peut-être, qui va se soulever sur ce thème-là. Mais je me pose la question, les jeunes générations qui savent qu'elles vont payer ce prix-là, et les enfants de nos enfants sont dans cette situation-là, jusqu'où vont-ils, la mobilisation va-t-elle demeurer gentille, bon enfant, et on va aller tous se promener à 300 000 personnes ensemble au cœur des villes? Il va y avoir une sanction. Il faut que ça soit de plus en plus évident pour les responsables politiques que la sanction va être très dure. Les gouvernements vont être jugés là-dessus à chaque année qu'il va y avoir des élections dorénavant. Alors, la situation ne fait que s'aggraver, en quelque sorte.
Alors, pour la COP25, c'était le baptême du feu, d'une certaine manière, pour Jonathan Wilkinson, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique. Il venait tout juste d'être nommé là, par Justin Trudeau à ce poste-là. Et lui, il a déclaré à la fin de la rencontre qu'il était déçu que les pays présents à Madrid n'aient pas pu se mettre d'accord sur les règles des marchés internationaux du carbone qui nous aideraient tous à relever nos ambitions. Par contre, il a aussi dit que le Canada allait continuer de travailler avec ses partenaires mondiaux pour établir des règles efficaces pour les marchés internationaux lors de la prochaine conférence des parties à Glasgow. C'est partie remise, d'une certaine manière, Mireille?
J'espère, oui. Je crois que ça fait des décennies, en fait, qu'on observe que les processus internationaux, malheureusement, arrivent peu à des conclusions fortes. Et même s'ils y arrivent, on sait que les engagements souvent n'ont pas été respectés souvent. Alors, personnellement, je crois que ces débats-là, ces institutions-là ont encore leur pertinence, même si on voit qu'elles ne sont pas très efficaces. Et là, je souligne ici qu'il y a du scepticisme et du cynisme dans les milieux parce que c'est décevant, effectivement, d'arriver à de tels résultats. Moi, je pense qu'effectivement, les jeunes générations se préoccupent beaucoup de ces questions-là. On l'a vu avec la marche du climat cet automne. Ces questions-là restent à l'ordre du jour, mais peut-être en tant que représentante des jeunes générations, moi, je pense que faut faire attention à dire que c'est toujours les jeunes générations qui vont payer le prix, parce qu'effectivement, le prix est lourd à payer pour des jeunes. Moi, j'essaie aussi de regarder vers l'avenir et notamment de regarder vers le développement des technologies vertes, qui me semble être un des moyens de concilier certains, je dirais, intérêts économiques qui refusent la décroissance économique, là, on ne se le cachera pas, et des objectifs environnementaux.
Alors, certainement, en tout cas, une situation à surveiller. Et c'est clair que toute la planète a les yeux rivés sur les dirigeants du monde là, concernant toute la question des changements climatiques. Je vous rappelle que la 25e conférence des Nations unies sur le climat s'est achevée à Madrid dimanche. Durant deux semaines, on a tenté de donner un nouveau souffle à l'accord de Paris. Ça a été un échec. Alors, deuxième sujet pour cette émission, Foi et Turbulence, le leader de l'opposition officielle et le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, a annoncé le jeudi 12 décembre, donc il y a un peu moins d'une semaine, sa démission dans un discours à la Chambre des communes. Il a parlé de l'une des décisions les plus difficiles de sa vie. Après la défaite du 21 octobre 2019, il avait expliqué qu'il entendait demeurer en poste coûte que coûte. Malgré tout, la grogne au sein du parti était telle qu'il n'aurait pas pu survivre au vote de confiance qui était prévu en avril prochain, estiment plusieurs des observateurs. Louis Rousseau, vous n'êtes pas surpris ou un peu surpris de cette démission?
Un peu surpris parce qu'effectivement, il avait affirmé très fort qu'il allait rester en place encore un bon moment. Selon les commentateurs du Canada anglais, les reproches qui lui sont faits suite à la défaite électorale ont porté sur des thèmes que j'appellerais sociaux, culturels et moraux, en quelque sorte. On lui a reproché d'être insensible face à l'urgence climatique. Nous venons de parler de la COP. C'est certainement pas le Parti conservateur qui, au cours de cette conférence, de la campagne électorale, a fait avancer des positions prenant en compte le problème de l'urgence climatique. Et aussi, on a souligné son malaise évident. Quand quelqu'un est mal à l'aise et qui est sous la caméra et les micros, il n'y a pas moyen de le cacher. Et il était évident que face à l'illégalité de l'avortement, c'est la situation de la loi au Canada, et de même que le mariage entre personnes du même sexe, qui fait partie de la loi canadienne, le chef du Parti conservateur était savait pas où se mettre. Et ceci a transparu, c'est un manque de clarté face à des enjeux qui sont posés sur la scène politique, et ça aurait suscité la méfiance au Québec et probablement en Ontario aussi. Moi, ce qui me frappe, c'est sa position ambiguë par rapport à certains thèmes qui sont névralgiques pour la droite religieuse, tant évangélique que catholique, qui font partie de l'électorat conservateur. Ses positions personnelles versus la loi du Canada apparaissaient en conflit et on avait raison de lui poser des questions à ce sujet-là. Il a manqué de réflexion préalable. Il est arrivé à l'élection comme s'il n'avait pas pensé qu'on lui parlerait de ça. Il aurait dû trouver une manière de réconcilier ses croyances personnelles, ses convictions personnelles. Tout le monde respecte les convictions personnelles des individus, son intégrité morale, et il n'a pas été capable de mettre en lien ses convictions personnelles, comment il les interprète en tant que chef de parti et l'état de l'opinion. Et là-dessus, je veux dire, C'est un manque de maturité, je dirais, de réflexion personnelle. Un chef de parti engage son parti dans un système de loi et il aurait dû être capable de mettre en place, de confesser ses convictions personnelles, mais de dire qu'au nom du bien commun du pays, ses convictions personnelles ne pouvaient pas devenir la base de la loi commune.
Alors, après la défaite d'octobre, Andrew Scheer a fait une tournée pan-canadienne pour aller sonder du côté des militants conservateurs comment il voyait sa campagne, la campagne qu'il avait menée. Et bon nombre d'observateurs disaient, ben, il a dû prendre en considération ce qu'il a entendu. Et d'une part, vous avez raison, du côté de l'Ouest canadien, par exemple, on lui reprochait, par exemple, toute la question du climat, par exemple, ou d'une question-là pour bon nombre de conservateurs. C'est ça qui a fait perdre bon nombre d'élections, même si, il faut le dire, le Parti conservateur a très bien fait dans l'Ouest canadien.
Ah oui, il y a eu l'Ouest.
Oui, comparé au Nouveau-Brunswick pour le Parti libéral, par exemple. Mais en même temps, on sentait que du côté des militants québécois, on voyait un certain problème avec des questions plutôt morales, les questions conjointes de même sexe et l'avortement, sur lesquelles ils ne pouvaient pas se poser ou se positionner. Et on a l'impression que la personne qui va chercher à le remplacer va faire aussi l'objet de bon nombre de convoitises à la part des groupes plus québécois, ou enfin des Québécois membres du Parti conservateur, et des gens du côté de la droite, par exemple, qui voudraient qu'ils soient davantage pro-vie, par exemple, du côté du Canada anglais. Comment vous réagissez à ça, Suzanne Loisel?
Moi, je pense que le Parti conservateur est dans une position extrêmement fâcheuse. Bon, évidemment, la rapidité avec laquelle il a démissionné. Je pense que les gens se disaient, bon, on se donne au moins jusqu'au printemps avec, comment on appelle ça, le congrès d'orientation, etc., aller chercher un vote de confiance. Mais finalement, il n'a pas pu attendre jusque-là. Et d'accord avec ce que vous avez évoqué, sa tournée du Canada a été assez importante, je pense, dans le processus de décision. Oui, la décision nous surprend parce qu'elle est venue beaucoup plus vite, et un peu à l'encontre de son propre discours qui disait « Moi, je me rends au moins jusqu'au mois d'avril ». Je pense qu'il a été pris par l'ampleur de la grogne à travers le Canada, mais la grogne à l'intérieur de son propre parti. C'est une chose, la grogne populaire, mais là, la grogne venait de l'intérieur. La contestation de son leadership était claire, et je pense que tout ce que Louis a évoqué, son leadership est devenu, je ne veux pas répéter, là, mais d'une fragilité extraordinaire. Il était isolé. Il y a la grogne à l'intérieur du parti, mais isolé à l'intérieur de son propre caucus. Il y a des gens du caucus qui se sont levés puis ont dit « Non, le temps est fini, il faut passer à autre chose. » Mais le temps se fait court, je veux dire, pour une course à la chefferie à l'intérieur de 4 mois. Dans un contexte, faudrait l'évoquer, de gouvernement minoritaire actuellement. Alors, c'est sûr que le choix du nouveau candidat à la chefferie et pourrait éventuellement être en piste pour être le premier ministre. En tout cas, ça, c'est de l'extrapolation, mais c'est sûr que ça joue là, dans le contexte actuel. Mais ceci dit, moi, je pense qu'il y a un problème de reconstruction. Il y a un problème de refaire la crédibilité du parti. Et moi, je pense que la nostalgie du temps de Mulroney le refait surface. Ou le conservatisme progressiste, c'est une ambiguïté extraordinaire, mais il y avait une ouverture sociale, il y avait une ouverture au niveau moral, etc. Et moi, je pense que les dossiers moraux l'ont coulé. Et effectivement, par rapport à l'avortement, par rapport à tout ce qui a été évoqué tantôt, mais je pense que son manque de transparence... Bon, c'est arrivé presque le jour où on a découvert que les frais de scolarité de ses enfants dans une école privée catholique, aux frais du parti... Bon, c'est pas majeur, c'est pas un assassinat, c'est pas... Mais ça mine... Son manque de transparence sur sa nationalité, son manque de transparence sur le passé, tout a fait pour le couler beaucoup plus rapidement qu'il pensait.
Alors, il a 40 ans, alors j'imagine qu'il peut s'en remettre. Il sera peut-être jamais premier ministre du Canada,
non,
mais il va continuer. En tout cas, il a dit d'être député, en tout cas, pour sa circonscription. Ceci dit, on a l'impression que pour le Parti conservateur, là, ça va être une situation particulièrement difficile de trouver un remplaçant. Allez-y, Mireille, là-dessus,
oui,
en quelques mots.
C'est sûr qu'en contexte canadien, c'est toujours très délicat, étant donné, l'étendue du Canada, les provinces de l'Ouest, on cultive toujours l'électorat quand même au Québec, c'est un enjeu important. Moi, ce que j'observe, c'est que le Parti conservateur me semble être en retard, notamment pour ce qui est de la représentativité des femmes dans le parti. Je crois que c'est le parti qui a eu le plus bon nombre de femmes au niveau des statistiques là, élues. Alors, il y a sûrement un gros travail à faire là, à l'intérieur du parti. C'est sûr que ça a été dit, les questions morales, il faut être préparé pour les discuter parce que on va toucher à des sensibilités. Et quand on parle de concilier certaines positions religieuses divergentes, ben là, on voit que il peut y avoir... capotage, là, parce que des fois, c'est pas possible de concilier.
Alors, je vous rappelle qu'il y aura course à la direction du Parti conservateur, puisque la semaine dernière, Andrew Scheer, le chef de l'opposition officielle et l'actuel chef du parti, a annoncé sa démission. On en reparle en 2020. Alors aujourd'hui, 18 décembre, Donald Trump pourrait devenir le troisième président de l'histoire des États-Unis à être envoyé en procès pour destitution après Andrew Johnson en 1868, il y a 150 ans, et Bill Clinton, il n'y a pas si longtemps, il y a 20 ans. Malheureusement, Radio-VM ne fera pas d'émission spéciale aujourd'hui pour voir le résultat du vote, mais je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y aura effectivement un vote. Pour quel motif on voudrait le destituer? Deux motifs, abus de pouvoir et entrave au travail du Congrès. Demain, aujourd'hui, en fait, a dit hier soir Nancy Pelosi, la Chambre des représentants exercera l'un des pouvoirs les plus solennels que lui garantisse la Constitution quand nous nous réunirons pour approuver deux articles de mise en accusation du président. Nancy Pelosi a envoyé une lettre aux 231 élus de son parti pour leur demander d'abord d'être présents aujourd'hui à Washington pour voter. Il est assez clair que la majorité, en tout cas, des 231 élus vont voter de son côté. Du côté du Parti républicain, on va voter contre, probablement, c'est presque sûr, là, à l'unanimité pour les républicains, contre cette mise en accusation-là. Donc, il va visiblement perdre, si tout va bien, en tout cas, si les règles sont adoptées dès ce matin, dès 9h ce matin, aux États-Unis, on devrait avoir un vote là, dans le courant de la journée, après des débats sans doute passionnés. C'est pas une surprise quand même, là, ce qui arrive, Mireille Dastou.
Oui, mais en fait, on va arriver à un vote aujourd'hui. Dans le New York Times ce matin, on précisait que ce qui est attendu, c'est que durant la journée, on va user de procédures pour retarder le moment du vote, mais le vote va quand même avoir lieu. Ce qui s'est discuté aussi beaucoup, c'est l'impartialité des personnes qui vont voter. Alors, on sait que les personnes qui votent ont tous fait un serment en lien avec une impartialité au niveau d'une justice impartiale. Mais il y a même eu des déclarations publiques. Entre autres, le leader de la majorité républicaine a dit qu'il n'était pas obligé d'être impartial. Alors, on est... ça peut sembler être dans le détail, mais en même temps, moi, je pense qu'on est là quand on est dans des questions extrêmement sensibles, extrêmement délicates, et surtout dans des questions où il y a autant d'enjeux de pouvoir. Là, on a un serment, mais si on n'est pas obligé... Alors, moi, je vais suivre quand même avec grande attention ce qui va se publier dans les médias américains, le Washington Post, le New York Times, là, pour voir. J'ai quand même hâte, je dirais. Personnellement, moi, j'appuie l'ensemble du processus dans le sens que c'est important dans une démocratie qui est, oui, des personnes qui soient au pouvoir, mais il y a aussi des procédures, en fait, il y a des contre-pouvoirs dans les démocraties, pas simplement, au niveau des procédures, mais au niveau des institutions elles-mêmes. Et ici, on a quand même un bel exemple là, sous nos yeux.
Alors, il va être envoyé en procès, donc, pour destitution. Et l'issue de ce vote-là ne fait pratiquement pas problème. On s'attend à ce que les démocrates disent ben, il est envoyé en procès. Alors, c'est pas la fin de cette histoire-là. On n'a pas un président destitué, Louis Rousseau, à la fin de la journée. On n'est pas en élection, là.
Non, parce qu'en même temps, on voit bien que la polarisation entre les deux partis aux États-Unis et, a atteint un niveau de quasi-totalité. Personne n'ose ne pas faire ce que les membres de son, les représentants de son parti pensent. Alors, on n'est pas... Et comme les républicains sont très majoritaires au Sénat, qui va jouer le rôle d'un véritable tribunal, qui va évaluer la qualité de l'accusation, y a-t-il des bonnes raisons, on sait déjà que il va... le président Trump ne sera pas condamné par le Sénat, qui serait l'instance pouvant lui faire perdre sa présidence, en quelque sorte, lui retirer le pouvoir. Alors, ça, c'est clair. Ce qui est, je dirais, plus intéressant, peut-être, et pour nous permettre de réfléchir à ce que c'est qu'une constitution, c'est quand on essaie de comprendre ce qui est difficile pour des Canadiens, parce qu'on n'est absolument pas une constitution fondée sur les mêmes principes que la constitution américaine. Il faut se rappeler que les Américains, dans leur révolution, ont voulu sortir du pouvoir monarchique. C'est la première révolution. La Révolution française va venir une vingtaine d'années plus tard. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont voulu? Leur souci principal, c'est, en se donnant une constitution, de faire en sorte qu'il soit impossible que les décisions politiques soient prises par un monarque, fût-il élu. Or, le fond de la chose, présentement, et l'interrogation qui se passe par rapport à leur propre fondement politique, les Américains, c'est est-ce que Trump n'est pas devenu, ne cherche-t-il pas à devenir un monarque? Élu, certes, constitutionnellement, et on ne conteste pas l'élection qu'il a mis au pouvoir, mais maintenant, il s'est opposé au fonctionnement de l'équilibre politique. Les élus ont le droit de contester les activités de l'exécutif. Et en empêchant les élus au Congrès d'avoir les documents et les témoignages de personnes qui sont au cœur du litige, là je rappelle pas le litige, c'est connu tout le monde, il empêche le fonctionnement de la Constitution américaine. Il met objectivement la structure du pouvoir politique américain, il les fait régresser au niveau d'une monarchie, ce qui est l'hérésie absolue du point de vue de l'histoire constitutionnelle américaine. Alors, c'est fascinant de voir une réflexion qui porte sur les fondements même de la loi commune. Et c'est ça qui est au cœur de ce débat.
Alors, si on comprend bien ce qui va se passer aujourd'hui, et si ça se déroule comme prévu, il va perdre le vote, il sera envoyé en procès, et dès le mois de janvier, ben, ça sera le Sénat qui va réagir, et il sera probablement acquitté par le Sénat, puisque le Sénat compte 100 sièges, il y en a 53 qui appartiennent aux Républicains, et pour que le président soit destitué, il faudrait qu'il obtienne les deux tiers des voix en faveur de sa destitution. Donc, c'est une victoire pour Donald Trump, toute cette histoire-là.
Une victoire, je pense, mitigée. C'est vrai que, bon, la Chambre des représentants est à majorité démocrate. On voit ce qui va se passer, le processus, et ça va être voté aujourd'hui, je pense. Mais le Sénat, comme vous dites, en janvier, qui est à majorité républicaine, va stopper le processus et monsieur va rester en selle jusqu'aux prochaines élections. Mais ceci dit, moi je pense que tout ce processus que la Constitution et l'appareil juridique des États-Unis protègent, c'est de rendre public les erreurs administratives et moi, je pense que faut pas oublier le rapport de 300 quelques pages qui étoffe des preuves accablantes de la conduite de Trump depuis son élection, qu'il ait placé ses intérêts personnels politiques au-dessus des intérêts de la nation, qui a miné... Quand Louis disait qu'il a été élu, je veux bien, mais il a miné le processus électoral. On peut encore en tout cas, m'a questionné son élection et je la questionnerai toujours dans les paramètres où elle s'est faite. Et l'argument de, avec tout le dossier de l'Ukraine, d'avoir mis, je dirais, en danger la sécurité nationale des États-Unis.
Oui.
Alors, ça, ces éléments-là, qui se passent, ce qui se passera et au Sénat et à la Chambre des représentants, l'opinion publique a entendu, a réfléchi, a... Et moi, je pense qu'une des cartes inconnues, c'est comment l'opinion publique va réagir. Moi, je veux bien que les sondages appuient encore à 40, je ne sais pas quoi. Mais il y a combien d'institutions de la société civile, que ce soit des intellectuels, que ce soit des juristes, que ce soit des historiens qui ont déposé des, comment dire, des témoignages, des écrits blindés, en fait, sur Trump. Et moi, je me dis, ben la suite, j'ose espérer qu'il ne sera pas réélu, mais bon, ceci dit, son image, son personnage est déconstruit sur la place publique.
Alors, on aura l'occasion, en tout cas, d'en reparler en 2020. Je vous rappelle que Donald Trump pourrait devenir aujourd'hui le troisième président de l'histoire des États-Unis à être envoyé en procès pour destitution. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Foi et Turbulence. Je vous rappelle que dans cette dernière table ronde de l'année, nous sommes en compagnie de Mireille Dastou, de la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval, Suzanne Loisel, du collectif Échec à la guerre, et Louis Rousseau, du département de sciences des religions de l'UQAM, professeur émérite. Alors, notre dernier sujet, c'est l'occasion, en tout cas, pour nous de rappeler c'est quoi les faits les plus importants de l'année. Puisqu'on est au micro de Radio-VM chaque deux semaines pour discuter de la situation dans l'actualité. On a demandé à nos collaborateurs aujourd'hui et collaboratrices de nous donner quel était le sujet le plus intéressant de l'année, ou en tout cas celui qui les a fait réfléchir davantage. Et pour Louis Rousseau, ben, c'est le Brexit. J'appelle tout le monde à tourner la page et à commencer à panser les blessures, a déclaré Boris Johnson, le premier ministre conservateur du Royaume-Uni au lendemain de son élection la semaine dernière. Il a remporté les élections haut la main. Il a raflé 365 sièges sur 650 à la Chambre. Alors, c'était une victoire sans précédent, d'une certaine manière, puisque même les travaillistes ont obtenu un score très historiquement faible. Alors, Boris Johnson promet la réalisation du Brexit le 31 janvier 2020. Alors, pour vous, c'est un événement marquant de l'année 2019, Louis Rousseau.
Je dois confesser que le Brexit m'a fasciné depuis que cette décision-là, d'abord un référendum, etc., s'est passée. Je dois être un ancien Canadien moulé par la culture britannique et je m'interroge moi-même sur quelle est cette complicité avec un débat en Angleterre.
Oui, oui.
Que certains appellent la mère patrie et d'autres ont moins d'affection pour cette mère patrie-là. Mais en fait, on est de constitution britannique. Hein. On est de culture politique britannique. C'est une des raisons, mais mon psychiatre m'expliquera le reste, sans doute. Mais ça m'a... c'est-à-dire, ce qui est fascinant, c'est que vu de l'extérieur, on se dit comment un pays... qui a pris du temps avant d'être admis dans l'Union européenne, longue construction de réconciliation entre les nations européennes, comment un pays peut imaginer sortir de ça et que ça soit positivement reçu? Je répondrai pas à cette question-là, mais en fait, c'était ce fait-là m'a attiré, cette question-là s'est maintenue très vive tout le long. La question est maintenant réglée. L'Angleterre, la Grande-Bretagne plus exactement, va sortir de l'Union européenne le 31 janvier prochain. 31 janvier 2020. Ça, c'est dans quelques semaines.
Oui.
Elle va demeurer cependant à l'intérieur du marché commun et de l'union douanière jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, pour un petit peu moins d'une année. Cependant, ce qui a été négocié jusqu'ici avec l'Union européenne par Mme May, la première ministre précédente, c'est une extension de la période de transition entre le moment où officiellement, légalement, l'Union européenne n'est plus membre de l'Union européenne et les ententes qui pourraient se produire entre une Angleterre comme pays autonome et le reste de l'Union européenne. Les deux parties souhaitent conclure une espèce d'entente sur l'échange économique et plein d'autres dimensions. Or, Boris Johnson et le temps de négocier la future entente, ça peut aller jusqu'à 2 ans et même un petit peu plus, selon les ententes préalables. Boris Johnson vient hier de dire non. Au lendemain de son élection, on va définitivement pas prolonger ce temps-là, de sorte que nous aurons une sortie de l'Union européenne et nous aurons une entente en moins d'un an. Ce qui apparaît par tous les observateurs comme une impossibilité. Ce que les Britanniques souhaitent, c'est une entente, un marché avec l'Europe qui ressemblerait à l'entente Canada-Europe, en gros, pour qu'on se donne une représentation facile. Mais il y a plein d'autres dimensions. La sécurité, le sort des populations britanniques qui sont installées à l'intérieur de l'Europe et réciproquement, etc. Tout le monde se dit ça n'a aucun sens. Alors, on est devant une échéance qui ne pourra pas être respectée en toute vraisemblance. Et si elle n'est pas respectée, c'est la catastrophe pour l'Angleterre et un peu pour l'Europe aussi, parce que là, dorénavant, tous les biens et services qui partent de l'Angleterre vers l'Europe vont être taxables. Et donc, la situation économique va connaître une baisse considérable. Donc, c'est pas encore fini la question du Brexit et les grands échecs sont encore à l'horizon des possibles.
Alors, on a l'impression que, effectivement, c'était le point d'orgue, cette élection-là, du premier ministre Boris Johnson, que ça permettrait de mettre un point final à toute cette histoire-là.
Ah non, c'est pas fini. Hein.
Mais c'est clair pour vous que ça n'arrivera pas. Je vous rappelle qu'au moins, ça nous a permis en 2019 d'apprendre un nouveau mot. Brexit, hein, c'est un mot valise qui fait Britain et exit. Alors, il y avait le Brexit pour ceux qui veulent sortir de l'Union européenne et il y avait le Remain pour ceux qui veulent rester. Donc, Britain, Remain à l'intérieur de...
Et le Westic. Hein?
Oui, allez-y.
Ah, ben là, tu changes de continent.
On arrive au Canada et oui. C'est l'Ouest qui veut sortir du Canada.
Alors, voilà. Alors, ça nous a permis au moins en 2019 d'apprendre de ces nouveaux mots.
Peut-être quelque chose parce que Suzanne. Par rapport au Brexit, faudrait quand même nommer les réactions en Écosse, en Irlande par rapport au Brexit. Et quand on dit, bon, il y a de l'inconnu dans ce processus-là, ce que Louis a bien décrit, mais pour connaître des gens de très proches et en Écosse surtout, où les gens sont anti, viscéralement Brexit. Et il faut voir la déclaration de la première ministre de l'Écosse, dont j'oublie le nom, j'ai un blanc de mémoire. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Je veux dire, c'est pas juste le rapport à l'Europe, c'est le rapport aux pays qui font partie de la Grande-Bretagne. Et ça, je pense qu'on est devant une inconnue absolument importante.
Ben alors, je vous rappelle là que le premier ministre conservateur de Boris Johnson a remporté ses élections la semaine dernière. Alors, il va avancer sur la question du Brexit. Sa réalisation au 31 janvier 2020. Mais continuons maintenant sur un sujet qui vous a particulièrement passionné, vous, Suzanne, c'est les révoltes populaires dans le monde. C'est une flambée de conflits sociaux qui a embrasé le monde durant une bonne partie de l'année 2019. On pense au Chili, on pense à l'Algérie, on pense à Haïti, Hong Kong, la Catalogne, le Liban et dans bien d'autres régions du monde. Des milliers, des centaines de milliers de personnes même sont descendues dans la rue et continuent de réclamer plus de démocratie. Dans certains cas, ont dénoncé la corruption des élites ou encore le coût de certains produits d'usage courant. C'est le fait marquant de l'année 2019 pour Suzanne Loisel.
Je trouve vraiment impressionnant ce mouvement citoyen mondial, international. Bon, vous avez évoqué un certain nombre de pays. Je n'ai pas compté, mais il semblerait que c'est dans une trentaine de pays où il y a eu des soulèvements significatifs. Et j'inclus ce qu'on a évoqué aussi au début de notre entretien, les manifestations citoyennes contre le réchauffement climatique, etc., qui font partie de ce portrait des révolutions populaires de la dernière année. Il y a trois choses qui m'impressionnent. La première, une certaine concordance entre les revendications, si je peux m'exprimer comme ça. Bon, par exemple, la dénonciation des inégalités partout. Ça s'exprime de façon différente selon le contexte des pays. Si on est en Inde, au Liban, au Chili ou en Haïti, ça se déplie de façon différente. La demande de démocratie, la demande insistante d'un gouvernement qui tient compte des revendications populaires, c'est un dénominateur commun dans toutes les manifestations. Et le rejet, je dirais, des élites, et particulièrement le rejet de la corruption véhiculée par les élites de plusieurs pays, que ce soit, on l'a vu en Irak, que ça a été une des revendications massives. On l'a vu en Haïti, ça a été une des revendications les plus importantes. Et c'est vrai dans les pays du Sud et c'est vrai dans les pays du Nord. Regardez le mouvement citoyen actuellement en France, je veux dire, bon...
Concernant les retraites.
Concernant les retraites, mais je veux dire, ça a pris origine depuis des mois dans le mouvement des Gilets jaunes, etc. Là, ça se cristallise sur une revendication précise, mais la France est paralysée ou presque actuellement. Donc, Haïti est paralysée, mais la France aussi est paralysée. Alors, moi, ce que je trouve vraiment très impressionnant, cette espèce de consensus sur des revendications précises qui se déplient de façon différente selon les contextes, etc. La quête de la démocratie, le refus de la corruption, ça fait partie maintenant de nos gènes comme citoyens, citoyennes dans le monde. Il y a l'ampleur des manifestations, des revendications, des mobilisations. Souvent, ça a été un élément, je dirais, très simple qui a déclenché, que ce soit la hausse du prix du pétrole
en
ou
Haïti,
bien le WhatsApp qui est taxé au Liban ou je ne sais pas trop. Mais des fois, c'est des plus gros morceaux, je veux dire. Le fonds de retraite, c'est plus que taxer le WhatsApp.
Voilà.
Mais ceci dit...
la démocratie à Hong Kong, entre autres.
Entre autres. Le mouvement Hong Kong est absolument impressionnant et face au géant chinois qui est de l'autre côté de la clôture, moi, je salue le courage. J'ai choisi cet événement, mais c'est un événement qui se déplie de façon tellement différente, mais où on retrouve, je dirais, peut-être le meilleur de l'être humain qui dit non à la pauvreté, qui dit non à la corruption, qui dit oui à la démocratie. Une espèce de nouvelle humanité qui se dessine, qui se dessine, c'est le mot est mal choisi, là, mais
qui se manifeste.
Qui se manifeste, qui, et de se rejoindre profondément aussi. Et aussi la connexion entre ces revendications-là. Bon, évidemment, les réseaux sociaux, je pense, ont un rôle majeur. On a beaucoup parlé de la COP25 au début, mais on a peu parlé des mouvements citoyens qui étaient présents à la COP. Mais c'est aussi ça, tous des gens qui sont articulés ensemble via des nouveaux moyens qui facilitent la communication, qui facilitent la mobilisation. Alors, moi, je pense que quelque part, il y a un monde nouveau qui est en train de... Bon, le mouvement des femmes, je veux dire, l'importance des femmes dans les différentes manifestations. Au Chili, elles ont eu un rôle majeur. Au Liban, elles ont eu un rôle majeur. En Haïti, elles ont eu un rôle... Alors, moi, je pense que cet événement des révoltes populaires, c'est pas un événement, c'est des événements, mais... dont il y a un cœur commun, je dirais, où un autre monde, oui, un autre monde est possible, on met les moyens pour que ça advienne. Mais on n'est pas naïf, puis de dire que le nouveau monde, ça va être demain matin. Mais c'est l'énergie citoyenne qu'on retrouve, c'est pas la première fois dans l'histoire, mais l'ampleur, la connexion des revendications, la circulation entre ces mouvements de résistance, je pense, amène quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Ça va prendre quoi? 5 ans, 10 ans, 100 ans? L'important n'est pas là, c'est que le monde est en train de changer à travers ces mouvements citoyens.
Et on est aussi certain qu'en 2020, en tout cas, ces révoltes populaires-là vont continuer, particulièrement dans les pays où rien n'a été encore réglé durant l'année.
Ah bien, tout à fait. Et déjà, on annonce des événements citoyens très importants pour la prochaine année. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Mais que ce soit dans le mouvement des femmes, que ce soit dans... Bon, qu'est-ce qui va arriver en Haïti? Qu'est-ce qui va arriver au Liban? Je veux dire, c'est pas le 31 janvier, 31 décembre que tout va arrêter.
En Algérie.
Écoutez, il y a 30 pays actuellement qui est en profonde mutation.
Alors, merci pour ce tour d'horizon des révoltes populaires dans le monde. Le dernier sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est Mireille Dastou qui s'est intéressée à ça, particulièrement durant cette année. Elle parle d'un certain rigorisme moral de l'Église catholique au Canada et un des événements marquants qui peut expliquer ça, ça a été toute l'histoire de développement et paix durant l'année avec des évêques qui exigent, par exemple, qui disent que 52 de ces partenaires auraient des positions qui seraient contraires à l'enseignement moral de l'Église catholique. Et à la toute fin de l'année, une lettre qui est parvenue aux médias d'une dirigeante d'un organisme de femmes en Haïti qui déplore l'entêtement des évêques canadiens sur son organisme et qui lui demande de dire très clairement qu'elle est contre l'avortement pour pouvoir obtenir de l'aide financière de la part de développement. Un entêtement, en tout cas, qui a fait en sorte que beaucoup de personnes et beaucoup de groupes ont pris position publiquement. Alors, allez-y, Mireille, là-dessus, on veut vous entendre sur ce rigorisme moral-là.
Oui, bien, l'entêtement que je trouve déplorable, qui est persistant, que j'ai hâte de voir changer. En fait, moi, mon analyse, c'est qu'il y a une crise qui est présente ici avec développement et paix et qui a des conséquences concrètes là, pour les organismes. Là. Il faut vraiment voir le nombre de personnes qui sont concernées présentement. C'est majeur. C'est pas pour rien qu'il y a eu beaucoup de prises de position ici au Québec. Même les jésuites ont pris position. Alors, la crise est persistante à l'intérieur même de l'Église en théologie morale. Et ça vient entre autres, pas seulement, mais entre autres de Jean-Paul II et de ses encycliques où il avait figé des positions morales. Et non seulement il a figé des positions morales dans des polarisations très fortes, mais en plus, il a court-circuité la réflexion même à l'intérieur de l'Église, la réflexion même des théologiens. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles... On a encore, justement, comme vous disiez, du rigorisme moral. Là, non seulement il y a eu du rigorisme moral, mais en plus, là, présentement, on a aussi un phénomène d'abus de pouvoir à un point tel que le mot même d'inquisition ressort là, dans l'espace public. Ce n'est pas rien, là, parce que moi, dans ma grande naïveté, l'inquisition, c'est quelque chose qui appartient au Moyen Âge. Oui. On pense pas que c'est des choses qui peuvent arriver de nos jours. Mais en même temps, quand on parle d'inquisition, ben on s'entend, c'est quand même une image, mais c'est pour dire que c'est un peu la même logique. C'est une logique verticale qui impose et qui ne se soucie pas vraiment, en fait, des conséquences de ces gestes là, à la base. Moi, ce que j'observe aussi dans l'Église, c'est qu'il y a une volonté forte aussi, il y a une résistance par rapport au rigorisme moral. Ça vient de beaucoup d'endroits dans le monde, ça vient de l'Afrique, parfois ça vient de l'Amérique du Sud. En Allemagne, les théologiens s'affirment, sont très bien organisés. Ici, au Québec aussi, il y a des mouvements, on pourrait dire... De changement de cette théologie morale-là. Je pense qu'il y a une ouverture du côté du pape François jusqu'à certains points, dans le sens où on cherche quand même à tempérer certaines positions de Jean-Paul II. Et quand on le fait, c'est aussi au nom du dialogue, c'est au nom de la tolérance envers des positions dissidentes. C'est au nom de l'hospitalité, de l'accueil évangélique. Est-ce que la rigidité morale et le rigorisme moral correspond à l'évangélisation qu'on veut proclamer, qu'on veut étendre au monde? Moi, c'est pas du tout ma vision du christianisme et de la mission, là. Donc, moi, c'est ce que je vois. Je pense qu'il y a un besoin dans l'Église aussi de nouveaux repères éthiques et moraux en éthique de la sexualité. Et bon, incluant la question de l'avortement, mais pas seulement ça. Et toute la question des femmes aussi. Moi, je rêve du jour où on va avoir un livre qui va s'appeler « Avortement, l'histoire du mansplaining dans l'Église catholique », parce qu'on a une doctrine qui est écrite par des hommes et qui n'écoute pas suffisamment les femmes. Ça fait longtemps qu'on le dit. Il faut que ça change.
Alors, peut-être qu'un des éléments à l'intérieur de tout ça qui ressort, et je lance la question rapidement à nos trois panélistes, est-ce que c'est pas aussi toute la question du silence, le silence qui a été observé pendant toute l'année par l'institution religieuse, la Conférence épiscopale canadienne particulièrement, dans le cas de développement et paix, pas moyen de savoir de quel côté on va voter pour les 52 partenaires qui sont touchés, pas moyen de savoir quelles ont été les propositions de la Conférence épiscopale lors des rencontres de développement et paix. Est-ce que c'est pas ça toute la question du secret ou du silence que le pape, justement, a levé hier dans le cas des abus sexuels? Allez-y, Louis Rousseau.
Écoutez, vous avez raison de poser la question ainsi parce que tous ceux qui contribuent, qui font confiance, au fond, aux organismes de l'Église catholique en contribuant à chaque année, durant le carême en particulier, à une levée de fonds pour que l'Église canadienne vienne en aide à d'autres églises, à toutes sortes de mouvements, d'ailleurs, partout. On avait l'impression que le Canada, comme d'autres pays, d'ailleurs, avait développé une certaine manière de faire, très, à la fois charitable, mais très raisonnable. On analyse, on reçoit des dossiers, on étudie là où on peut placer les fonds, et on faisait confiance un peu spontanément à, entre autres, à des laïcs, mais pas que, à des membres du clergé, qui géraient la charité mise ensemble dans l'Église canadienne. Or, voici que, inspiré par des mouvements d'origine américaine, tout d'un coup, les évêques canadiens se mettent à dire « Ouais, mais là, il y a ces groupes, c'est des ONG locales qui ne respectent pas la morale catholique. » Et là, a commencé depuis un bon moment, mais c'est accéléré depuis au cours de la dernière année et un peu plus, une espèce de grand examen de conscience sur cette situation-là. Et où on aboutit aujourd'hui à poser des attentes. Oui ou non, on ne veut pas que vous nous disiez oui, mais c'est oui ou non, obéissez-vous à la morale catholique. C'est comme si la morale catholique s'était centrée sur un ou deux points. Ce faisant, c'est un pouvoir clérical qui ne répond pas à ceux qui le financent. Et là, là-dessus, on a un véritable scandale public. Et moi, je ne serais pas surpris si la contribution aux œuvres catholiques de charité ne s'effondrait pas au cours du prochain carême. Parce que ce n'est pas vrai que quand les gens envoient un 25, un 50, un 100 $, ils sont en train d'appuyer la compréhension que l'épiscopat canadien se fait de l'application de la morale catholique sur, entre autres, les questions de sexualité et qui concerne essentiellement, je le rappelle, comme mes collègues, la gestion par les femmes de leur corps.
Alors, un dernier mot, Suzanne Loisel, là-dessus?
Moi, je pense qu'on est en pleine omerta. Je suis impressionnée, et à différents niveaux. Hein. Les évêques, la CECC, bon, prend position par rapport à développement et paix. Je pense qu'il y a un enjeu de pouvoir qui est majeur. On est en train de tordre la mission originelle de développement et paix, qui était la confiance des évêques dans le laïcat pour gérer des projets de solidarité. On est en train de falsifier, de détourner la mission de développement et paix. Les évêques sont en train de kidnapper développement et paix. L'autre chose, c'est par rapport à, je peux pas croire que dans une conférence des évêques, il y en a pas la moitié d'un qui est capable de se lever pour dire, moi, je suis pas d'accord avec ça. Il y a eu aussi une réunion du Conseil national de développement et paix il y a une quinzaine de jours, je pense. Rien ne sort de ça. On exige des gens qui participent de signer une entente de confidentialité. On est à l'envers de la démocratie. On est à l'envers de la participation des laïcs dans l'Église. Moi, je trouve que c'est un événement qui révèle une vision ecclésiale qui revient au Moyen Âge. Et tout le mouvement de Vatican II, dans une nouvelle ecclésiologie, et d'ailleurs, développement et paix, est né dans ce contexte-là. Alors, je pense qu'on est dans un autre monde ecclésial. Et moi, je salue, je veux dire, en fait, beaucoup de prises de position, mais les prises de position ne viennent pas de l'appareil ecclésiastique, ils viennent de chrétiennes, particulièrement de chrétiens engagés dans des réseaux de solidarité, etc. Bon, Mireille a parlé de la position des jésuites, mais il y a la position de l'autre parole, il y a la prise de parole de l'Association des religieuses pour les droits des femmes,
les Sœurs du Bon Conseil, etc.
Alors moi, je pense, puis il y a des gens, on a vu une prise de position dans Le Devoir il y a deux jours. Il y a d'autres lettres qui circulent. Il faut être dans les réseaux proches de développement et paix pour savoir que il y a des gens qui prennent la parole, mais c'est pas des gens de l'appareil. Je veux dire, ils sont liés. Moi, je pense qu'on fait face à un détournement de mission d'une organisation fondée par les évêques dans la mouvance de Vatican II où on confiait aux laïcs la gestion avec un immense respect, confiance dans leurs compétences, etc. Et là, c'est l'abus, on a parlé d'abus de pouvoir. S'il y a un cas qui est un abus de pouvoir des évêques canadiens qui veut le contrôle absolu sur cette organisation.
Un dernier mot, Mireille Dassault.
Oui, effectivement. Moi, je pense que c'est de l'ingérence. Je pense qu'il faut revoir la manière de gérer, peut-être développement et paix. J'espère qu'on se rendra pas à ce que vous dites, là, que là, il y ait boycott des dons. J'espère que la crise va finir par se résoudre. Là. J'ai espoir, même si je sais que ça fait assez longtemps que c'est comme ça. Je sais qu'il y a des personnes qui travaillent à l'intérieur pour tenter de parler aussi aux personnes qui travaillent à développement et paix. Ça doit pas être facile de l'intérieur non plus, là, quand on se retrouve dans une telle crise. Moi, je pense que vraiment, j'ai hâte de voir un changement de position de la Conférence des évêques catholiques du Canada là-dessus.
Alors, c'était les événements marquants, en tout cas, de l'année 2019, et dans le cas de développement et paix, c'était l'événement peut-être marquant, en tout cas, pour l'Église catholique canadienne. Alors, merci à nos commentateurs et commentatrices pour ce tour d'horizon, en tout cas, qu'on a fait aujourd'hui. Et surtout, merci pour tout ce qu'on fait pendant l'année, parce que c'est notre dernière table ronde de l'année 2019. Pour moi, c'est important, en tout cas, de vous rappeler que l'émission Foi et Turbulence est produite par l'Institut pastoral des Dominicains avec le soutien financier de la Fondation canadienne de la vidéo religieuse et de la Fondation Adieu va. Notre prochaine table ronde sur l'actualité aura lieu dans 3 semaines cette fois-ci, soit le mercredi 8 janvier 2020. On vous y donne déjà rendez-vous. Foi et Turbulence fait relâche la semaine prochaine, ce sera Noël, mais elle sera de retour, l'émission, le mercredi 1er janvier avec une grande entrevue avec le frère Claudio Monge, responsable du Centre de documentation et de dialogue interculturel et religieux des Dominicains d'Istanbul. Au cœur de cette entrevue, 2 thèmes, la prière dans les 3 religions monothéistes et une réflexion sur la notion d'hospitalité. Alors, merci à nos invités d'aujourd'hui, Mireille Dassault, Suzanne Loisel et Louis Rousseau. Merci à Mathieu Lavigne, coordonnateur de cette émission, et à Daniel Fortin à la régie. À l'animation, François Gloutenay de l'agence de presse Présence. Merci d'être à l'écoute de Foi et Turbulence et un joyeux Noël à chacun et chacune d'entre vous.